Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes. Alors c'est un auteur que j'ai découvert il y a maintenant déjà quelques années et puis je sais aussi que vous l'appréciez. Il est maintenant, je dirais, l'un des grands maîtres du thriller français. Ses livres se lisent et s'arrachent. Je le reçois aujourd'hui pour son nouveau roman, Le Manoir des Sacrifiés. Alors vous allez voir, il nous emmène bien en-delà de nous. Vers la Néandertal, la paléontologie, la recherche scientifique, puisque il a des connaissances en cette matière, et donc il nous fait vibrer grâce à ses connaissances, à ce roman, à ce thriller fascinant, très étonnant. Il a, je trouve, atteint une majorité, une majorité, oui, disais-je, dans son écriture. C'est fluide, c'est bien écrit, ça se lit tout seul et c'est surtout très agréable. C'est un bel auteur et je suis sûre que l'homme aussi se lit au travers de ses lignes. Bonjour Olivier Merle.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes. Délivrez-vous pour votre dernier roman, Le Manoir des Sacrifiés aux éditions XO. Alors on vous connaît pour vos nombreux romans, vos nouveaux thrillers. Je dirais que celui-ci, je me suis dit, peut-être qu'Olivier Merle a fait un cauchemar et il a voulu écrire ce cauchemar. Voilà.
Je n'ai pas fait de cauchemar. Dieu merci, hein, si en plus si j'avais fait un cauchemar de ce type, je pense que je ne me serais pas réveillée.
Oui, sans doute, oui. Alors, on retrouve le capitaine ou commandant. Je ne sais jamais s'il est capitaine ou commandant.
Il est commandant.
Le commandant Grimm. On va en apprendre un petit peu plus sur lui, hein. Ses peurs, ses craintes, ses frayeurs, sa vie. Voilà, on en saura un petit peu plus qu'une histoire aussi dans l'est de la France. Bref, il est aussi avec trois comparses aujourd'hui pour cette enquête. Il y a Corentin, Emeline et Eric dont on aura l'occasion de parler. Alors, ça commence très fort dans le livre. On retrouve un crâne de Néandertal posé. Au pied de ce crâne, un homme est prostré, à genoux. Il est lui-même, le crâne est fendu, bref, dans une attitude de prostration, de respect, mais le pauvre, hélas, ne pourra plus se prostrer davantage. Son épouse a disparu et on va s'apercevoir que ça va être compliqué parce que l'enquête va piétiner. Bref, notre capitaine a peur que d'autres crimes soient perpétués, que des femmes disparaissent. Bref, moi ce que j'aurais savoir, c'est comment s'est passée l'écriture de ce livre, parce que je sais que vous êtes un féru de ce genre de choses et vous faites des recherches scientifiques, vous avez d'ailleurs beaucoup de connaissances en ce sens. Comment est venue l'idée de ce roman?
Alors, c'est toujours difficile de retrouver l'idée d'un roman parce oui. que, en fait, les idées viennent progressivement. C'est comme un puzzle qui s'assemble, chez moi en tout cas, oui. assez lentement. Donc, le point de départ, je ne saurais le dire, mais après, les choses s'agglomèrent progressivement. Ce qui est sûr, c'est que, étant donné qu'effectivement, on parle de l'homme de Néandertal dans ce roman, moi, je suis un passionné des zones préhistoriques. C'est oui. ce que je voulais faire. En fait, quand j'étais jeune, je lisais tout ce qui sortait sur la question. Oui. Je voulais être paléontologiste. Mm-hmm. Et bon, ça ne s'est pas fait. Je suis devenu géologue, mais enfin, c'est un domaine assez proche.
C'est pas mal. C'est bien aussi, ouais. oui.
J'ai toujours continué à m'intéresser à Néandertal, d'autant plus que ces dernières années, on a fait beaucoup de découvertes oui. sur cet homme préhistorique. Et je pense que cette passion, en fait, j'ai voulu la mettre aussi dans un de mes romans. Alors, évidemment, c'est un thriller. Évidemment, il y a des crimes, comme vous l'avez dit, des crimes, c'est épouvantable. Oui. Et puis, c'est difficile de comprendre exactement pourquoi il y a ces crimes et qu'est-ce qui se passe. Mais l'idée, peut-être, de lier une passion qui m'est personnelle avec un thriller, voilà, je pense que ça m'a séduit, forcément, à un Bien moment sûr. Donné. Et voilà, et donc je me suis lancé là-dedans.
C'est la passion de l'histoire humaine, finalement.
Oui.
Hein,
oui.
Tout à fait.
Oui, oui. Ah, j'ai toujours été fasciné oui, par les origines de oui. l'espèce humaine.
Eh bien, on pourrait former un club tous les deux. Voilà, moi aussi. à bon entendeur.
Je retiens la proposition.
Voilà. Donc je disais, on retrouve notre commandant Grimm, qui va prendre en charge cette enquête avec trois acolytes, je dirais, assez atypiques. Il y a Emmeline, bon, on va pas trop dire, mais elle va jouer un rôle dans la vie de notre enquêteur. Il y a aussi Corentin, qui est un personnage aussi assez particulier, assez carré, assez comme ça, assez sagace, je trouvais,
oui.
je trouve, oui. Et puis Eric, qui est plus cool, qui est plus comme ça, qui n'a l'air de rien, mais qui une réflexion assez lente, mais qui est très judicieux aussi, comme ça. Et moi, j'ai bien aimé ce trio. Parce que il complète magnifiquement il va magnifiquement bien avec le caractère de Grimm finalement.
Oui, je pense que alors d'abord ils sont tous les trois très dissemblables.
Oui. Mais complémentaires.
Et complémentaires parce que comme vous le disiez, bon par exemple, Eric est très flegmatique.
Oui.
Corentin est plus nerveux, mais oui. Il a un côté pince sans rire,
oui.
Très sagace, comme vous disiez, et puis très lucide, en fait,
oui.
Sur la vie aussi, en général. Et puis Hermeline, elle est très incisive aussi, elle est très très sportive et très, elle apporte aussi beaucoup de jeunesse parce qu'elle est un peu plus jeune que les autres.
Oui.
Et c'est tout ça fait un ensemble qui, je pense, aide Grimm à supporter un petit peu son mal-être, sa difficulté de vivre.
Mmh.
Ils sont finalement tous les trois peu normés, je dirais peu normés,
oui.
ce qui satisfait Grimm, qui lui l'est pas du tout.
Mmh.
Je pense que ça lui va bien, que s'il était avec des gens, voilà, qui pensent tous la même chose, qui disent tous la même chose au même moment, etc. Voilà, ça le libère un petit peu, je pense.
Oui. Et puis, je me disais que pour une telle enquête, parce que c'est quand même très particulier, hein, quand même, faut reconnaître, oui. C'est pas un thriller ordinaire et c'est très bien. Moi, j'adore ça. Il fallait de toute façon quatre personnages un peu hors du commun, de toute façon, pour rapprocher les choses et puis pour trouver. Mais malgré tout, ils piétinent parce que ils sont quand même très au fait des choses, mais ils se grattent quand même très longtemps la tête parce que ça a pas de sens. Nous-mêmes, on, au fil des pages, on se dit mais enfin, on va jamais y arriver. On va retrouver des crânes fracassés. Les femmes vont se faire enlever. On va jamais les retrouver. Donc, il y avait besoin aussi de ces regards complètement comment dirais-je atypiques pour pouvoir mener une telle enquête.
Oui, je pense que pour aller jusqu'au bout, il fallait effectivement des personnes assez particulières.
Oui.
Parce que c'est vrai que le problème, comme vous le dites, c'est qu'il n'y a pas, il y a peu de pistes.
Et non.
Très peu de pistes.
Oui.
C'est-à-dire que bon, l'épouse a disparu.
Oui.
L'homme, il est
oui.
Comme vous l'avez dit, il est prostré devant un crâne de Néandertal. Alors pourquoi ce crâne de Néandertal? Qu'est-ce qu'il signifie? D'autant plus que les crimes se répètent et avec toujours la même mise en scène.
Oui.
Donc pour résoudre effectivement cette énigme, parce que c'est vraiment une énigme en fait, finalement, voilà, il faut un quatuor qui soit performant, très performant et atypique.
Et atypique, oui. Alors tout au long de l'enquête, on va aller de surprise en rebondissement. On va en apprendre aussi un petit peu plus. Hein, on le disait sur le commandant Grimm. Un petit peu, on va s'apercevoir que à l'est, dans l'est de la France, il y a plus de choses. Alors l'enquête, elle nous emmène aussi, si ma mémoire est bonne, ça va de Rennes à Montpellier.
Alors ça va de Rennes à Montpellier, oui. Parce qu'il y a un autre crime à Montpellier, d'ailleurs, qui impacte Grimm. Alors, je vais pas dire pourquoi.
Mais non,
sinon, on déflorerait trop.
Oui, voilà. C'est pour ça que c'est compliqué avec vous.
Oui, c'est compliqué. C'est le problème des thrillers.
C'est ça.
Faut pas trop en dire.
Eh ben, non, je dis à chaque fois à vos autres collègues, pour l'interview, faut tourner autour du pot. Moi, je me gratte la tête avant.
Un petit peu, voilà. Donc, effectivement, il y a un crime à Montpellier aussi.
Oui.
Et ce crime, donc, doit, comme je disais, impacte Grimm. Personnellement, et il va à partir de là avoir des petits problèmes avec sa hiérarchie et il va devoir poursuivre un peu, alors toujours en relation avec ses acolytes,
Bien sûr.
Il va devoir poursuivre l'enquête un petit peu personnellement et faire des choses que ne font pas un policier, ne fait pas un policier normalement.
Mmh.
Donc, voilà qui va le mener solitairement à un moment donné, sur les traces de qui ?
Et oui, on verra bien, on verra bien. Alors moi, ce qui m'a étonnée, étonnée tout de prime abord, non, et puis après, au fur et à mesure de l'enquête, le manoir des sacrifiés. Alors, on va pas trop... Mais moi, je me suis dit, au départ, ça va être un huis clos. Vous savez, manoir, moi, j'imagine, oui. Vous savez, Agatha Christie, Lady Petit-Nègre.
Oui.
Voilà, là c'est le commandant Grimm et les petits crânes, on va dire.
Oui.
Voilà. Mais pourquoi ce titre ? Parce que manoir, vous savez, manoir, ça fait toujours un petit peu... Moi, ça me fait penser au Dos Hurlevent, puis alors, les sacrifiés, on imagine toujours des tas de choses. Et ça fait presque moyenâgeux, vous savez, les sacrifiés. Voilà, oui, dans ma lecture, moi aussi, j'étais un peu tordue, finalement, au fur et à mesure de ma réflexion.
Allez, au du Hurlevent, oui, les sœurs Bonté, oui, tout ça.
Oui, c'est ça.
Alors, de fait, alors, c'est pas un huis clos.
Oui, ben non.
Mais ce manoir va jouer un rôle, oui. Surtout dans la dernière partie, je dirais, du livre, oui. Puisque c'est là que tout va se résoudre. Mm-hmm. Et c'est bien cet endroit énigmatique. Que Grimm comprend qu'il existe quelque part cet endroit énigmatique, c'est-à-dire qu'il y a bien un, même si les crimes ne se produisent pas au même endroit, oui. Il y a un épicentre. Mm. Il y a un épicentre quelque part et il l'a globalement localisé dans un triangle à l'intérieur de trois villes, mais il ne sait pas où ça se trouve. Donc ce manoir des sacrifiés, alors il ne sait pas que c'est le manoir des sacrifiés, mais enfin il soupçonne qu'il y a un endroit particulier oui. Où il faut aller, qu'il faut trouver, et ça va être aussi sa quête. De trouver ce manoir. Donc ce manoir, en fait, quand on le découvre, parce qu'on va le découvrir, on va aller dedans, c'est quand même le moment clé, le moment clé du roman.
C'est vrai. Oui. Alors je me suis posé aussi une autre question. Vous voyez, ça m'a tout au long du livre. Parfois, je le posais. Alors je me suis dit, mais ce crâne de Néandertal, logiquement, les crânes de ce genre sont dans des musées, c'est gardé, c'est précieux. Donc je me suis dit, mais comment ce crâne de Néandertal a pu Alors après, on peut penser que c'est la passion d'un homme ou d'une femme pour ce genre de choses et qu'il l'a gardé précieusement. En fait, on peut dire que c'est une passion dévorante, mais qui tue aussi.
Alors, c'est à mon avis plus simple que ça. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est plus simple que ça dans la mesure où ces crânes de Néandertal, en fait, on en fait des copies.
Oui, mais donc, pour moi, c'est un original, vous voyez, dans mon esprit.
Ah oui, non.
C'est pour
fait,
ça.
Ce n'est pas un original. Ça y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas un original. De même, alors, non, je ne vais pas dire ça parce que là, je donnerais trop de pistes si je continue.
Voilà.
Mais voilà, c'est, en fait, il n'y a pas besoin de posséder, parce qu'alors, posséder vraiment... des originaux chez soi, là c'est compliqué. Là, oui. Je suppose qu'il faut faire de la contrebande.
Voilà, oui, voler, oui, ben voilà. Et les voler, c'est criminel. Enfin, c'est on tombe sous le coup de la loi. Non, on est d'accord.
Absolument.
Donc, on ne peut pas détenir de façon ce genre de choses à titre personnel.
Si on le trouve dans son jardin, on peut toujours ne pas le dire.
Ah oui. Ah bah écoutez, si j'en trouve un dans mon jardin, je vous appelle et je vous le montre.
Voilà. Je saurai l'identifier.
Voilà, c'est ça. Mais écoutez, ce que nous allons montrer tout de suite, en tout cas, essayer de faire écouter, c'est une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Olivier Merle pour ce dernier roman, thriller, Le Manoir des Sacrifiés aux éditions XO. Alors, on parlait avant la coupure musicale de ce crâne de Nerdental posé comme ça. Alors, l'homme est prostré, est agenouillé de devant cet homme qui a le crâne aussi fracassé, etc. Donc, vous nous laissez supposer, l'histoire laisse supposer que finalement, il y avait une sorte... On peut penser qu'il y a une forme d'admiration, de déférence par rapport à ce crâne. On peut le supposer. Est-ce qu'on l'a mis à genoux pour le tuer ou est-ce qu'il était à genoux avant d'être tué? Vous voyez?
Ah, c'est toute la question qui va se poser.
Et oui, et oui.
Mais en fait, ils vont conclure, alors ça je peux le dire quand même,
oui,
qu'il a été mis en position d'adoration,
oui,
après sa mort,
mm-hmm,
comme pour rendre un hommage en fait à l'homme de Néandertal.
Oui.
Donc il y a bien ici un nœud qui est lié à l'homme de Néandertal. Et comme l'homme de Néandertal a disparu, alors c'est que l'homme de Néandertal vivait en Europe avant que nous arrivions, nous, l'homme moderne,
oui,
mais que nous l'avons côtoyé pendant 15 à 20 000 ans,
oui,
et même que nous avons eu des descendants ensemble. Nous avons,
oui,
nous, Européens, 3-4% des gènes de Néandertal en nous.
Oui.
Donc voilà, c'est là il y a quelque chose. Néandertal est en nous aussi, quelque,
oui,
part. Et qu'est-ce que ce meurtrier veut signifier en mettant justement ses victimes en adoration, en prostration, vraiment, oui, en position de prière presque, d'adoration devant le crâne de Néandertal, ça va être
l'un des enjeux
à trouver.
Oui.
Alors, il va trouver.
Oui, il va trouver. Oui. Alors justement, par rapport à Néandertal, vous m'avez devancé, c'est très bien, par rapport à l'histoire, pour nos auditrices et auditeurs, Néandertal, c'est avant l'Homo sapiens, l'homme qui sait.
Oui, alors, hein? Nous avons Néandertal,
oui,
et nous avons des ancêtres communs, mais,
oui,
très lointains,
mm-hmm,
en Afrique.
Mm-hmm.
Et le futur homme, le proto-homme de Néandertal a quitté en fait l'Afrique bien avant nous,
oui,
et est allé se développer et a fini par aboutir à l'homme de Néandertal,
mm-hmm,
que nous avons rencontré quand nous avons quitté l'Afrique beaucoup plus tardivement,
oui,
et nous sommes arrivés en Europe et il était déjà présent.
Mm-hmm.
Et Néandertal est beaucoup plus intelligent qu'en général on le pense ou on le dit, puisque,
mm-hmm,
on sait maintenant qu'il savait faire parfaitement le feu, c'était un excellent chasseur, il enterrait ses morts,
mm-hmm,
il parlait, enfin bref, il n'avait pas grand-chose à nous envier, et on pense maintenant que c'était un homme d'une intelligence probablement égale à la nôtre.
Mm-hmm.
Donc voilà, on a eu, et c'est quand même fascinant, à un moment donné,
c'est fascinant,
l'histoire de l'humanité, il y a,
ouais,
eu deux espèces humaines qui se sont côtoyées,
mm-hmm,
et ça c'est quand même un moment extraordinaire. On ne,
mm-hmm,
sait pas pourquoi l'homme de Néandertal a disparu,
mm-hmm,
il y a beaucoup d'hypothèses sur la question,
ouais,
mais le fait est qu'il a disparu,
mmh,
et que c'est peut-être dommage, je ne, mmh, sais pas.
Alors, dans l'ordre, donc, il y a alors, je ne sais pas, moi je suis néophyte, je m'y intéresse, mais je peux me tromper, donc Néandertal, Homo erectus et Homo sapiens?
Ah non, non.
Non.
Homo erectus, en fait,
c'est l'homme qui s'est levé. C'est l'homme qui s'est,
oui,
levé.
C'est l'homme qui s'est levé, erectus, oui. C'est aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'hominidés avant que nous apparissions.
Oui.
Il y a eu pas mal d'hominidés qui ont quitté l'Afrique.
D'accord.
Plutôt que nous. Bon, nous, quand on l'a quitté, on était exactement comme nous sommes maintenant, sauf qu'on était, noirs, on était tous noirs.
Oui.
Nos peaux se sont décolorées ensuite sous les, oui, climats...
différents climats, tout à fait.
Sans, oui, sans soleil.
Mm-hmm.
Mais voilà, nous avons quitté l'Afrique le plus tardivement,
mm-hmm,
et nous avons rencontré, donc... alors Homo erectus était quasiment éteint, il avait quasiment dégénéré, mais nous avons rencontré donc Néandertal, qui,
d'accord,
lui avait évolué pour son propre compte,
mmh,
en Europe.
D'accord. Et sa peau était plus claire? Sa peau était plus claire?
Alors sa peau était vraisemblablement plus claire, oui,
mmh,
c'est ce qu'on pense maintenant, parce,
mmh,
qu'il était sous ces climats tempérés, voire froids, tout qu'il a subi des,
mmh,
glaciations, pendant beaucoup plus longtemps que nous.
Mmh.
Donc très, très vraisemblablement, oui, il, mmh, devait avoir la peau plus claire. Oui.
Alors je suppose qu'en tant que passionné de cette période de notre histoire, peut-être y êtes-vous allé, vous avez entendu parler des gorges d'Olduvai en Tanzanie.
Oui, bien sûr, oui.
Mmh.
Oui, oui.
Voilà, dans le parc, à côté,
oui,
pas très loin du parc de Serengeti,
oui,
et du cratère,
oui,
de Ngorongoro.
Voilà. Alors ça, c'est plus ancien, c'est les Australopithèques.
Oui.
Oui. Là, on remonte encore.
Avant.
Alors là, voilà. Alors là, Australopithèque, là, et Néandertal et nous en sommes issus.
Oui.
C'est vraiment là notre lignée.
Direct.
Une des lignées de départ. Ouais. Mm.
Et donc, bien sûr, on emporte en nous quelques traces d'ADN, bien évidemment. Voilà. Comme quoi, la Terre est à tout le monde. Voilà. Vous savez, il y a un proverbe Maasai, justement, puisqu'on parle des gorges d'Olvaï, que j'aime beaucoup, qui dit « La Terre ne nous a pas été léguée par nos parents, mais prêtée par nos enfants. »
Ah.
C'est très joli.
C'est
oui, c'est un proverbe Maasai que j'aime beaucoup. Voilà.
Je vais le retenir.
Voilà. Alors, donc, cette enquête... En fait, votre livre, il est à la fois terriblement moderne, hein, de par les techniques, de par les recherches, mais aussi de par ses personnages. Les personnages sont modernes sans l'être parce que ils ont une façon de faire leur enquête, de chercher les choses. Et moi, j'ai bien aimé ce côté un petit peu en dehors des clous, parce que pour une enquête ordinaire, il fallait être en dehors des clous. Et moi, j'ai bien aimé aussi ce côté, un peu hors du temps.
Oui. Ben, c'est ce que, à vrai dire, c'est ce que j'aime aussi. Alors, peut-être que je suis un peu comme ça, je ne sais pas, mais j'aime aussi être dans le présent avec toutes les technologies dont nous disposons, mais aussi être dans le passé. Mm. J'aime l'ancien et j'aime le présent. En fait, j'aime me balader dans ces univers qui sont temporellement maintenant disjoints et séparés. Mm-hmm. Mais je pense que mes personnages reflètent sans doute ça. Moi, j'avais pas forcément perçu, hein, c'est vous qui me le dites, mais je pense que c'est exact. Ça vient profondément de moi, ça, c'est certain. Mm.
Oui, ils sont pas conventionnels. Voilà, je cherchais le mot. Ils sont pas conventionnels. Mais je pense que vous ne l'êtes pas non plus, donc effectivement, non, peut-être que ça transpire. Marquez, ce que vous avez écrit ne l'est pas non plus.
Non.
Moi, vous savez, j'ai eu envie de dire à ceux à qui j'en parle autour de moi, c'est un thriller préhistorique, un peu.
Ben, en quelque sorte, oui.
En quelque sorte.
Oui, on peut dire ça, parce que... À un moment donné, il va y avoir donc une rencontre de Grimm avec un professeur d'université qui va justement, parce que Grimm, il n'en sait pas plus que nous sur la question, qui va justement l'informer et le mettre au courant d'un certain nombre de découvertes récentes sur l'homme de Néandertal.
Oui.
C'est la partie un petit peu, j'ose à peine dire le mot, mais didactique.
Didactique. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je le...
apprend des choses.
Ouais.
S'il les ignore, hein, parce qu'il y a des passionnés... sur la question, mais la plupart d'entre nous, on en entend parler de l'homme de Néandertal, mais pas tant que ça, donc il y a effectivement ce côté-là aussi dans le roman.
Comment vous avez travaillé, vous nous avez expliqué la genèse, hein, c'est-à-dire votre intérêt pour ce pan de notre histoire et quel pan, et puis le policier aussi, la situation policière. Mais comment vous avez travaillé? Je suppose que vous êtes entouré d'un tas de documents, de recherches pour affirmer et affiner vos connaissances.
Oui, alors bon, je ne partais pas de rien. Donc
oui,
déjà
c'est pas mal. Oui.
Ça fait moins de travail.
Oui.
Effectivement, j'ai réuni tous les documents les plus récents sur l'homme de Néandertal. Et puisque vous parliez aussi de l'action policière, moi je suis quelqu'un qui aime l'exactitude.
Hein. Ah oui, parce que c'est précis, hein. C'est bien détaillé, c'est précis dans la procédure. Il n'y a rien qui dépasse. Hein.
Je suis un scientifique de formation, donc en fait j'aime bien l'exactitude. Et ça me gênait en fait de ne pas, puisque je suis pas moi policier, donc les procédures, hein, et en particulier les relations entre le policier et le judiciaire, c'est un domaine assez complexe.
Oui.
Et je me suis fait aider par un ami magistrat qui a lu mon premier roman et qui m'a dit, bon c'est bien, je vois que tu as fait des recherches, tu es bien documenté, tu as appris des choses, ça va à peu près, mais il y a quand même des boulettes. Il y a des choses qui ne passent pas tout à fait comme ça dans les relations entre le procureur, le juge d'instruction, les gardes à vue, etc., etc. Il y a des plusieurs, elle m'a fait tout un petit mémo. Donc le deuxième tome sur ce plan-là est plus exact que le premier. Et moi, ça me satisfait. Alors il y a peut-être encore des erreurs, je ne sais pas, mais en tout cas il est plus près de la réalité pour ce qui est de toutes ces procédures complexes.
En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez précis, parce qu'en fait, on a besoin aussi, de, nous, lecteurs, de cette précision, parce que le sujet est quand même ardu, et n'est pas commun. Donc, c'est vrai qu'avec cette précision que vous nous apportez, avec tous ces détails, ça nous permet de mieux nous recentrer, finalement, dans l'histoire, et de trouver que c'est fluide, vous savez, au niveau de la procédure. Ça nous permet, pour nous, d'être plus à l'écoute, plus dans le livre, plus dans l'histoire, finalement.
C'est carré, donc ça roule.
Voilà, c'est ça. Alors, je suppose, le livre-là va vivre sa vie et j'espère qu'il va bien vivre, ça, je n'ai aucun doute. Mais est-ce que Olivier Merle a déjà des idées pour son prochain roman?
Alors, en général, je reste muet comme une tombe.
Oui, comme tous, mais j'essaye à chaque fois.
mais là, vous avez de la chance.
Ah!
Oui, vous avez de la chance parce qu'en fait, je me suis attaché à ce personnage, Bergerim.
Oui, il est sympa. Moi, je l'aime bien aussi.
Il va revenir.
Oui.
Il va revenir dans une enquête qui va être un peu terrible pour lui parce que on va en fait creuser du côté de son passé à lui.
C'est ce que vous laissez entendre. Il y a une ouverture dans le livre.
Oui. Quand je parle de l'Alsace. On devine. D'ailleurs, Hermeline, qui est très fine, comprend qu'il y a quelque chose là. Elle le dit à un moment donné. Il nous a parlé de sa mère là, d'un cimetière, je ne sais pas quoi. Mais alors, est-ce qu'il vient pas? Et puis alors là, elle dit, mais Grimm, de toute façon, c'est un nom alsacien ou.
Et oui, les contes de Grimm, les contes de Grimm.
Germanique en tout cas.
Germanique, oui.
Donc est-ce qu'il n'aurait pas, en plus, il avait l'air de connaître les journaux de l'Alsace, donc alors je peux pas en dire plus évidemment, on va aller du côté de son passé, et là on va découvrir que Hubert Grimm, il a un passé assez lourd quand même, je ne dirai pas plus, mais un passé qui n'est pas, qui explique un peu son caractère, sa psychologie, la manière dont il se comporte avec les uns et les autres.
Mais c'est quelqu'un d'assez fracassé, Grimm, de torturer, de fracasser. En fait, c'est plusieurs personnages en un. Les torturer, mais je pense que c'est quelqu'un d'humain, sans doute en souffrance, mais alors il faut dire que l'enquête là ça l'arrange pas, ne l'arrange pas psychologiquement parce que il y a pas d'indice, il y a rien, il tourne et il a peur encore qu'il y ait des meurtres et que d'autres femmes se fassent enlever, donc en plus il est torturé,
il est effectivement, il a plusieurs personnalités parce que il est assez renfermé, mais en même temps, il est très humain, comme vous l'avez dit.
Oui.
Et donc, il est un petit peu ambivalent entre cette façon qu'il a parfois de se refermer sur lui-même, et puis cette ouverture qu'il a, parce qu'il aime les gens, en fait. Il aime les gens qui le trouvent sympathique, en tout cas.
Tout à fait.
Il a cette personnalité double. Alors, quand vous dites qu'il est fracassé, alors vous allez voir dans le prochain roman à quel point il a été fracassé.
D'accord. Ok. Je suis prévenue, comme ça je pourrais m'accrocher.
Voilà.
Suis prévenue. En tout cas, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Et nul doute qu'il le sera par toutes nos auditrices et auditeurs, Le Manoir des Sacrifiés aux éditions Exio. C'est un vrai bonheur de vous retrouver, Olivier Merle. Merci infiniment de nouveau d'être fidèle à l'émission. Et puis, je vous dis à dans quelques mois pour la suite de l'histoire de Grimm avec une autre enquête, bien évidemment.
Merci beaucoup.
Merci. Le Manoir des Sacrifiés, c'était Olivier Merle aux éditions XO. Eh bien, nous nous retrouvons pour une autre émission. J'espère que vous apprécierez ce livre. Franchement, je vous le conseille parce que c'est une belle lecture et c'est un auteur qui vaut le coup. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.